Ce 6 août, c'est la fête de la Transfiguration du Seigneur. Nous sommes avec l'abbé Philippe Beitia, bonjour.
Bonjour.
Alors cette fête de la Transfiguration, elle nous est relatée dans les trois évangiles synoptiques.
Alors tout d'abord, il faut dire que c'est une fête qui est célébrée tant par les églises d'Orient que par les églises d'Occident depuis bien longtemps. Vous aurez remarqué qu'elle est célébrée 40 jours avant la fête du 14 septembre, d'exaltation de la Sainte Croix, enfin de la Croix glorieuse, donc ce n'est pas non plus sans signification. Et nous trouvons l'épisode de la Transfiguration relaté par les trois synoptiques et mentionné également dans la lettre de Pierre qu'on lit comme première lecture ou comme seconde lecture, car cette fête a le pas sur le dimanche, donc elle est toujours célébrée quand c'est un dimanche.
On entend l'évangile de la Transfiguration à deux reprises dans l'année liturgique.
Non seulement on entend le récit, mais il y a donc la célébration de la Transfiguration lors du second dimanche de Carême et lors du 6 août, avec des accents différents. Dans la liturgie du second dimanche de Carême, la préface va nous dire que la Transfiguration, où la gloire du Christ est révélée, manifeste que sa passion le conduirait à la résurrection. Et dans la perspective du carême, la spiritualité du carême, l'oraison en évoquant ce mystère demandera à Dieu que nous sachions écouter la parole de son Fils bien-aimé, ce qui est un des accents du carême. Tandis que le 6 août, il y a d'autres thèmes. Alors, la préface précise, en se référant, je crois, à un texte de Saint Grégoire le Grand, elle précise que s'il y a eu transfiguration de Jésus devant certains de ses disciples, c'est pour que voilà, il ne soit pas ébranlé par le scandale de la croix. On insiste dans l'oraison sur le fait que cette transfiguration est confirmée par le témoignage de Moïse et d'Élie. Autrement dit, ça veut dire que le Christ est la dernière parole de Dieu. Voilà, c'est le symbole d'Élie, de la prophétie. Et qu'il est le nouveau Moïse qui apporte donc la loi de la nouvelle alliance, et que bien sûr il est le centre et l'accomplissement de l'ancienne alliance. Chez Saint Luc aussi, on nous dit que Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus de son départ vers Jérusalem, donc c'est effectivement donc l'évocation. L'évocation de la passion, aussi préfigurée par la souffrance, les ennuis, donc de Moïse et d'Élie. Et on peut se référer aussi au prologue de Jean qui nous dit que, que par Moïse la loi nous a été donnée et que par Jésus-Christ la grâce nous a été donnée. Bon, ça c'est un premier aspect. Le second aspect, l'oraison du 6 août insiste sur le fait que est manifestée notre merveilleuse adoption. L'adoption filiale, le Christ est le Fils de Dieu, mais afin que nous soyons fils dans le Fils par le baptême et que nous vivions bien sûr en conséquence. Troisième aspect, la gloire du Christ annonce la gloire future des chrétiens, la gloire future du corps tout entier de l'Église.
La transfiguration se passe sur une montagne.
Transfiguration se passe sur une montagne, comme beaucoup d'événements importants dans la Bible et aussi dans le Nouveau Testament. La loi nouvelle, Matthieu 5, 6, est donnée aussi sur une montagne, la transfiguration a lieu sur une montagne, et la crucifixion de Jésus aussi a lieu sur une montagne.
Là, ça se passe sur le mont Tabor.
Oui.
D'après les évangiles, ce mont existe.
Oui, oui, ce mont existe. Je crois qu'il y a même aujourd'hui un monastère de la Transfiguration à cet endroit.
Finalement, quel est le message que l'évangile veut nous délivrer en nous faisant connaître cette transfiguration du Christ? Est-ce que c'est une forme d'épiphanie, comme au moment des noces de Cana, comme au moment de la venue des mages?
Ça peut être une épiphanie au sens d'une manifestation du Christ, mais c'est aussi une théophanie, voilà, puisque il y a bien sûr le Christ qui est transfiguré en gloire, donc le Fils bien-aimé, il y a la voix du Père qui retentit, et la liturgie nous dit dans l'introïte bien que l'Esprit Saint est présent donc dans la nuée. Ça manifeste aussi le mystère de la Trinité, le fait que les trois personnes sont solidaires, agissent ensemble dans l'œuvre du salut. Voilà. Et bien sûr, on peut rapprocher aussi la transfiguration du baptême de Jésus, qui est également une épiphanie et une théophanie.
On trouve d'ailleurs un peu le même verset, celui-ci est mon fils bien-aimé, on le retrouve dans les deux manifestations, au baptême du Seigneur et à la transfiguration.
Voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Voilà, les deux choses, ces deux aspects apparaissent dans les deux récits, avec peut-être une différence, c'est que... lors du baptême de Jésus, vous avez une allusion au poème du serviteur. Jésus, qui n'a pas besoin du baptême du Baptiste, puisqu'il est le Saint de Dieu, se veut solidaire des pécheurs et s'annonce bien le serviteur de Dieu, qui, selon Isaïe, va donner sa vie pour les pécheurs, ce que Jésus va réaliser sur la croix. Donc on est peut-être davantage tourné avec le baptême du Seigneur, outre le fait que c'est une expérience où Jésus comprend que sa mission publique doit commencer, on est plutôt tourné vers la croix, vers la solidarité du Christ avec les pécheurs en vue de leur salut. Tandis que dans la transfiguration, on est plutôt tourné vers la gloire du Christ qui succédera à la croix. On pourrait faire cette analyse.
La présence d'Élie et de Moïse vient manifester que le Christ accomplit la loi, c'est ça ? Qu'il y a une continuité avec la première alliance ?
Le Christ accomplit la prophétie à travers donc la grande figure du prophète Élie, et le Christ accomplit la loi. Alors, bien sûr, il y a, comme toujours avec le Christ et avec la Nouvelle Alliance, il y a bien sûr en même temps continuité et rupture. Continuité, mais rupture en ce sens que il y a un accomplissement de la loi. La loi va être portée jusqu'à sa plénitude. Et de même, quand dans l'Ancien Testament, les prophètes parlent de leur mission, ils disent, Dieu m'a dit ou Dieu m'a envoyé. Tandis que pour le Christ, il est lui-même donc la dernière parole du Père.
Pierre, Jacques et Jean veulent rester en haut de la montagne, mais ce n'est pas possible.
Enfin, Pierre veut qu'on plante trois tentes, parce que à ses yeux, c'est le nouvel exode annoncé par les prophètes qui doit avoir lieu. Mais bien sûr, ce n'est pas tout à fait cette perspective-là. Ça veut nous dire aussi, de manière peut-être un peu plus concrète, bien que dans la foi chrétienne, la foi chrétienne n'est pas une succession d'expériences spirituelles gratifiantes, mais que quand ces expériences spirituelles sont faites, bien, elles sont faites bien sûr pour en témoigner, pour témoigner du Christ, et qu'il faut redescendre dans la plaine pour vivre la vie selon l'esprit du Christ.
Pour terminer, Abbé Philippe Beitia, quelle est la spiritualité finalement à laquelle nous invite cette fête de la Transfiguration ?
Alors, c'est une fête d'été. En principe, 6 août, il devrait faire beau, il faut l'espérer. Donc, elle est célébrée dans le rayonnement naturel, dans le rayonnement naturel du soleil. Bon, c'est une fête, même de grande espérance, puisque si nous contemplons la gloire du Christ, qui n'est que passagère à ce moment-là, puisqu'elle annonce la gloire définitive de la résurrection. Si nous contemplons cette gloire du Christ, en même temps, ça nous aide dans notre vie, dans notre témoignage chrétien, puisque nous sommes appelés à la gloire et que la contemplation de la gloire peut nous donner du courage. C'est aussi l'espérance en la résurrection qui est affermie, et c'est aussi la présence de l'Emmanuel, du Dieu avec nous, qui nous est signifié.
Merci beaucoup pour tous ces éclairages, Abbé Philippe Beitia, en cette fête de la Transfiguration, et bonne fête de la Transfiguration à toutes et à tous.